Salut Marc.
Salut Marc.
Je suis absolument ravi de te retrouver. On est toujours dans ton jardin qui est inondé de soleil. On est un peu à l'ombre. On vient de manger. Je dirais pas quoi. Mais c'était très bon. Et puis on va reprendre nos épisodes qui concernent ton livre qui s'intitule La nature au bord de l'eau, qui est cette grande collection de Delachaux et Niestlé qui a été lancée vers 2014. Il y a 7 bouquins.
Ouais.
Qui sont parus. Tu m'as dit que tu contemplais, c'est un anglicisme, d'en faire 10 au total. Et là, on est en mai 2022 et on parle de ce bouquin qui vient de sortir là, en fin de printemps 2022, donc La nature au bord de l'eau. Donc on a déjà fait des épisodes dessus. Je renvoie les auditeurices à ce qu'on a dit précédemment. J'ai envie qu'on commence celui-ci, si ça ne te dérange pas, par deux envahisseurs, par deux espèces invasives. J'aimerais que tu nous apprennes à les distinguer l'un de l'autre et que tu nous dises tout ce qu'il est bon de savoir sur le rat musqué et sur le ragondin.
Ça, c'est deux mammifères qu'on voit facilement. C'est rare chez les mammifères hein, qu'on les voit en plein jour. Le ragondin est beaucoup plus gros. C'est un bon gros chat, quoi. C'est
ouais.
Un peu plus même. C'est vraiment une grosse bête pour les adultes. Il a la queue ronde. Bon, mais ça, faut déjà le voir quand il nage. Le rat musqué, lui, il est un peu plus petit. Il vient lui aussi d'Amérique, d'ailleurs, à la base. Hein.
Amérique du Nord, hein, tu précises.
Oui, alors que l'autre, c'est plutôt Amérique du Sud. Et le rat musqué, on le voit moins facilement. Ce qu'on voit, qui est particulier, puis je l'ai photographié pour le livre, on le voit qu'il fait son nid assez facilement, c'est-à-dire qu'il va sur les berges, il ramasse de l'herbe, il se fait sa petite litière, il a une petite moustache verte et il va nager avec ça pour se refaire sa litière. Ça, on le voit assez facilement avec le rat musqué.
Tu as mis en titre les faux castors. Tu expliques que le ragondin, il a une queue ronde, il a les dents rouges parce qu'il a du fer qui renforce ses dents, apparemment, dis-tu.
Ça, c'est important.
Ouais, et l'autre, le rat musqué, il a une queue qui est aplatie latéralement. Voilà, on imagine que ça l'aide à nager peut-être.
Bien sûr, mais ça c'est des trucs de naturaliste. Le ragondin, d'abord, il est plus gros, il a souvent des moustaches bien blanches, la face bien blanche. Et effectivement, je parle des dents, parce que dans tous les livres, on dit que le castor ou le ragondin ont les dents rouges, mais on n'explique pas pourquoi. Et j'ai eu du mal à trouver pourquoi. Et en fait, effectivement, c'est parce que l'émail contient du fer, que ça rougit au contact de l'air et que c'est une protection. C'est grâce à ce rouge que le ragondin a la dent dure. Et on pourrait faire des dentifrices d'ailleurs à base de fer, mais on aurait tous les dents rouges. C'est pas très à la mode.
En effet, je crois que dans certaines cultures, il est de bon ton d'avoir les dents noires ou rouges.
Et pas chez nous.
Pas chez nous, et on va dire que c'est tant mieux. Je lis dans ce livre effectivement qu'il y a une énorme différence de taille. Hein. Tu dis que le rat musqué, qui effectivement a des moustaches noires, tandis que le ragondin il a des moustaches blanches, en gros il est plus petit hein, que le ragondin. En gros, 1,5 kg pour le rat musqué contre 9 kg pour le ragondin.
Oui, donc c'est spectaculaire, quoi.
Marc, avec ton immense sens de la poésie à la Audiard, hein, comme on l'a déjà dit dans les épisodes précédents, tu parles de chevelure mouvante, tu parles des plantes qu'il y a dans l'eau. Qu'est-ce que tu racontes finalement sur toutes ces plantes, le potamo pectiné?
Alors les plantes aquatiques, c'est un peu comme les poissons, c'est un petit peu les points faibles des naturalistes qui sont surtout terrestres. Éventuellement, quand ils plongent, c'est en Méditerranée, c'est la mer, mais l'eau douce est un univers en même temps de proximité totalement inconnu. Les plantes aquatiques, on ne les connaît pas. Et j'ai eu du mal à les identifier parce que je n'ai pas trouvé de guide assez précis pour ça. Donc, j'ai voulu mettre aussi des images de ponts parce que autant on découvre la nature terrestre en bord de chemin, autant souvent on découvre les plantes depuis les ponts. On se penche autour des ponts et on voit ces chevelures justement mouvantes comme ça au gré des flots. Et on est content de voir un petit poisson qui passe d'une plante à l'autre. Et c'est comme ça qu'on découvre la rivière, on n'en sait pas plus.
Potamo pectiné, les photos qu'on voit. Ouais. Ça ressemble effectivement à des cheveux qui ondulent dans le courant.
Ah oui, ça fait des grandes chevelures. Comme ça peut être très long, ça fait plusieurs mètres de long. Hein. Ce sont des plantes de rivière, donc qui sont arrimées, hein, qui résistent au courant. Donc il y a quelques identifications dans ce guide. C'est assez rare de voir des identifications de plantes subaquatiques, c'est-à-dire complètement immergées. On découvre surtout, grâce au photographe, là c'est Bruno Guénard, cet univers mais féerique de ce qui se passe sous l'eau, avec les rayons de soleil obliques comme ça, cette ambiance un petit peu verte, mais magique, magique vraiment, et la beauté de ces plantes, de ces poissons qui vivent dans un univers, mais totalement inconnu, quoi.
Marc, tu vas m'accuser un peu de ruiner cette espèce de poésie que tu avais voulu instiller dans cet épisode.
Oui, il n'y a pas de souci.
Tu as un petit mot sur l'eutrophisation. J'aimerais que tu nous expliques concrètement ce que c'est, Et de quoi ça résulte?
Oui, ça c'est un des fléaux, parce qu'il y a des photos de belles rivières et aussi des photos de rivières polluées à cause des intrants, des pesticides, des engrais surtout chimiques qui se déversent tôt ou tard dans l'eau avec les pluies. On se retrouve avec tellement d'engrais que des algues poussent tellement qu'elles font une nappe glauque, ça, une espèce de mousse verdâtre qui fait des bulles, c'est vraiment pas joli, et qui envahit les mares, qui envahit les rivières lentes et qui obstrue la lumière, qui fait que ça tue la vie aquatique. Donc l'eutrophisation, c'est vraiment un gros problème de nos rivières qui est de plus en plus récurrent, parce que les pesticides, on n'a pas envie de s'en séparer. Hein.
Alors Marc, je voudrais que chacun ressorte de cet épisode en faisant la différence entre un goujon et un vairon. Le vairon, il a une petite bande noire sur le corps, et le goujon, c'est plutôt des points.
Oui, ce sont des petits poissons blancs qui nourrissent justement les brochets, les truites et bien d'autres. Et c'est les petits poissons blancs, quand on pêche, on dit souvent goujon. Ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on a une photo de goujon amoureux, et quand il est amoureux, le goujon, il a des petits points blancs partout, il a une espèce d'acné nuptiale qui montre qu'il est en rute.
D'accord. Tu as des belles photos de sternes.
Oui, là on est dans le fleuve alors.
Alors effectivement, je suis dans le chapitre, on est page 100, sculpteur de paysage. Donc je vois des photos de sternes que je reconnaîtrais entre mille, les sternes Pierre Garin. Peut-être c'est le moment de dire, Pierre, que la sterne est un des oiseaux qui détient le record mondial.
Alors moi c'est Marc.
Ah c'est drôle.
Non, c'est drôle, c'est Pierre Garin.
Alors c'est drôle, j'ai dit Pierre Garin, mais surtout j'arrête pas de penser à un de tes collègues avec qui on fait Nomen, je t'en ai parlé ce matin, mon collègue Pierre Avenas.
Ah bah oui.
Ce spécialiste de l'étymologie. Enfin bref, oui, donc c'était rigolo que je t'appelle Pierre, mon frère s'appelle
Sinon,
Pierre
Sinon, la sterne Marc Garin, alors.
Oui, le Marc Garin, c'est drôle. Bon, bref, je disais, cet animal, la sterne, déjà, il est magnifique, hein, ça ressemble à une mouette avec des toutes petites pattes, un bec bien rouge, une calotte noire sur la tête. Mais la sterne, c'est l'oiseau qui détient le record de distance parcourue en migration.
Ah oui, la sterne arctique, oui, parce qu'elle vit toujours le jour. Donc au pôle Nord, il y a 6 mois de jour et 6 mois de nuit. Donc quand le jour est terminé, c'est-à-dire qu'à la fin du 6e mois, la sterne arctique change de crèmerie et elle va sur l'Antarctique, qui est le contraire, qui va être 6 mois dans le jour pendant que l'Arctique sera dans la nuit. Donc elle voit le jour toute sa vie.
Sa migration consiste d'aller d'un pôle à l'autre et ça fait 80 000 kilomètres. Cet oiseau détient le record de la plus longue migration du monde. Alors effectivement, c'est pas la sterne Pierre Garin, c'est la sterne arctique, effectivement.
Mais elle se ressemble beaucoup.
C'est pour ça que j'en parle. Je la voyais, parce que tu parles des sites de nidification.
Ben, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux parties dans le livre. Il y a les eaux courantes, donc ça commence par les torrents, le Cincle, etc. Et de plus en plus large. Donc là, on est au fleuve, c'est-à-dire au monument le plus puissant aquatique qui crée lui-même des monuments parce que ça creuse des falaises dans lesquelles nichent les oiseaux. Ça crée des îles avec les alluvions. Il y a des plantes qui fixent le sable, il y a des arbres. Ça fait évoluer le paysage, le fleuve, ça c'est important. Et sur les îles que ça crée, effectivement, il y a des oiseaux comme les sternes qui trouvent là un refuge des prédateurs et qui ne vont pas s'aventurer là. C'est des lieux de vie très très chauds. C'est vraiment le désert brûlant. Ils sont adaptés à ça. Ils couvent leurs œufs, hein. Ils s'échappent pas souvent. Ils sont aussi adaptés aux éventuelles inondations. C'est-à-dire que si jamais il y a une couvée qui se fait inonder, immédiatement, il y a une deuxième couvée. Donc ils sont vraiment faits pour ces îles dans les fleuves.
Tu évoques ces prairies inondables qui servent notamment de frayères aux brochets.
Oui, ça c'est la grande richesse des fleuves et des rivières, c'est de déborder, de sortir du lit. Ça permet d'engraisser le sol, d'apporter des alluvions. D'ailleurs, la richesse du Nil, la force des Égyptiens de l'Antiquité, ça a été les alluvions du Nil. C'est très, très, très important. Et on a canalisé aujourd'hui tellement les fleuves que ces endroits-là sont beaucoup plus rares. Et les prairies humides, c'est un niveau d'eau qui est tout à fait particulier, avec une température qui fait que les femelles de brochets viennent frayer là-dedans, parce que les petits brochets, ils ne seront pas atteints par les gros carnivores. Donc, ils vont se développer dans cette eau qui est un petit peu tiède parce qu'elle est à peu de surface, donc elle est bien en direct sous le soleil, et c'est vraiment des frayères à ciel ouvert, et il faut absolument protéger ces prairies inondables.
Quelque chose qui n'est pas évident, pareil, que tu nous invites à observer, ce sont ces terriers d'oiseaux. Et là, il y a des magnifiques photos de guêpiers, c'est un des plus beaux oiseaux qui soit, avec une espèce de robe harlequin, on a du mal à les décrire tellement il y a de couleurs. Puis aussi l'hirondelle de rivage qui fait des trous. Et puis il y a ton chouchou, il y a le martin pêcheur. J'aimerais d'abord que tu me parles de ces terriers qu'on voit sur les berges des rivières et des fleuves. Il y a des gens qui se demandent que c'est. Donc, effectivement, c'est pas des nids, c'est des terriers qui sont assez longs. Comment ça se passe ?
Ah ben, c'est des oiseaux qui creusent des terriers, effectivement, avec leur bec, leurs pattes. En général, le bec sert de piolet et les pattes de pelle pour enlever la terre. Donc, c'est du boulot pour eux, hein, parce que c'est des tunnels, hein, des galeries qui peuvent faire plus d'un mètre. Et ces oiseaux creusent des terriers. Donc, ils ont vraiment besoin des falaises qui sont creusées par les fleuves. Quelquefois, il y en a qui nichent dans des carrières, d'ailleurs, et les carriéristes, souvent, arrêtent les travaux pour laisser la nidification. Donc, il y a des tractations avec les ornithologues. Ça, c'est des choses qui se passent qui sont plutôt sympas. Dans ces carrières, l'oiseau, effectivement, qu'on regarde le plus, c'est le guépier. Parce que le guépier, avant, c'était un oiseau africain du sud, éventuellement de Camargue et autres, et qui vient vers le nord tout doucement.
Avec le réchauffement.
Avec le réchauffement, probablement, qui dépasse la Belgique maintenant, qu'on peut voir en Île-de-France un petit peu partout. Et c'est un oiseau merveilleux.
Marc, il faut que tu nous dises un mot sur ton chouchou, le martin pêcheur. On apprend mille choses avec toi. Déjà, peut-être tu pourrais nous dire comment on différencie le mâle de la femelle. Et puis après, tu nous ouvres un peu les yeux, tu expliques que suivant la position du poisson dans le bec, on sait si c'est pour qu'il le mange lui ou pour qu'il le donne à ses oisillons. Tiens, il y a un énorme frelon...
Oui. Un frelon européen.
Qui vient de se poser à côté de toi.
On a aussi des frelons à pattes jaunes, on a les deux.
Oh, il est énorme, il fait 3-4 cm celui-là.
Ah ben, c'est le plus gros hyménoptère avec l'abeille charpentière, effectivement. Tu vois, il me passe à côté, ça me fait pas peur.
Ouais, non, pas... je savais que tu étais un mec courageux. Alors, parle-moi de ton chouchou, le martin pêcheur. Alors, on avait dit, comment on différencie le mâle de la femelle ?
C'est simple, le moyen mnémotechnique, c'est de dire que la femelle a du rouge à lèvres. Voilà, il y a une tache rouge sur le bec. C'est à peu près la seule différence à nos yeux, en tout cas, entre le mâle et la femelle.
Le mâle, il a le bec noir.
Quand ils attrapent des poissons, c'est la tête vers la gorge, pour pas se faire piquer par les arêtes du poisson, évidemment. Ils vont dans le sens du courant, les poissons qui sont engouffrés. En revanche, si vous voyez un martin pêcheur avec un poisson avec la tête vers l'extérieur, ça veut dire soit qu'il va donner un cadeau de noces à sa femelle, soit qu'il va nourrir ses petits.
Parmi les photos qu'il y a dans le bouquin, on voit un martin pêcheur pris de dos. J'aimerais que tu nous parles un peu des couleurs du martin pêcheur et notamment de ces deux taches blanches qui ont une utilité pour cet oiseau.
Certainement, il y a des chouettes qui ont la même chose, c'est-à-dire que ces deux taches blanches, on dirait un regard. Donc quand le martin pêcheur est de dos, on dirait qu'il est de face, et l'œil, c'est ce qu'il y a de plus inquiétant pour le rapace. Le paon du jour, par exemple, le petit papillon, il imite un gros regard, et quand il ouvre les ailes, ça fait très peur aux oiseaux. Il y a des tests qui ont prouvé que le dessin de regard fait peur aux prédateurs.
Ah oui, c'est connu, il y a plein de papillons, en effet, qui ont des ocelles,
ouais,
qui dessinent des œufs immenses, on dirait un hibou. Et en effet, c'est un effet de deterrence, comme on dit en anglais, de dissuasion,
ouais, ouais, ouais,
pour les prédateurs. Il y a une photo magnifique d'un épervier qui poursuit un de tes martins pêcheurs, et tu dis, et c'est, je ne sais pas si c'est pour le sens du récit, mais qui s'en est sorti en plongeant.
Non, non, c'est le photographe qui m'a dit ça. Ça, c'est une photo rare, hein, parce que les éperviers, c'est pas un oiseau rare aujourd'hui. Mais les voir, essayer d'attraper un martin pêcheur, faut déjà être sur le terrain et avoir vu ça. Ça prouve que le martin pêcheur, qui est lui-même un petit prédateur, a des gros prédateurs.
Alors, tant qu'on est dans ces détails, je ne l'avais pas évoqué au début, mais il y a une photo de faucon obereau, qui est un des plus petits faucons en France. Et la légende dit qu'il est capable d'attraper des hirondelles et des martinets en vol. Et ça, c'est une vraie prouesse, parce que les deux oiseaux que je viens de citer sont sans doute les meilleurs voiliers, c'est sans doute les meilleurs oiseaux volants du monde en termes d'agilité,
oui,
de vitesse.
Ouais. Les martinets. Alors, j'ai observé en bord de rivière pendant un moment les trois espèces d'hirondelles les plus courantes, la rustique, l'hirondelle de fenêtre et l'hirondelle de rivage. Ce sont des acrobates. Elles sont au bord de l'eau comme ça, c'est attraper les insectes, c'est des virtuoses. Et après, il y avait les martinets. Elles avaient l'air d'être au ralenti à côté des martinets. Les martinets, ça fait du 200 à l'heure. Ça ne se pose quasiment jamais. Ça peut faire 500 km par jour. C'est un as du vol absolument prodigieux. Et le faucon obereau arrive à attraper des martinets. C'est dire s'il est agile.
C'est le meilleur compliment qu'on puisse lui faire. Marc, je voudrais que celles et ceux qui nous écoutent ressortent de cette émission en faisant la différence, enfin, entre l'hirondelle rustique, l'hirondelle de fenêtre et l'hirondelle du rivage. Tu as cité les trois. J'aimerais qu'avec des mots simples, tu nous apprennes à faire la différence. Il y en a une qui a une gorge rouge.
Oui, alors si je pouvais vous le dessiner, ça serait plus simple, mais c'est pas très radiogénique, c'est pas très efficace. Donc l'hirondelle rustique, c'est l'hirondelle type, avec la longue queue fourchue. Et la gorge rouge, effectivement, rouge brique sombre, c'est pas ça qui saute aux yeux quand on les voit en vol, mais la silhouette, c'est vraiment la longue, on dit les longues rectrices, voilà. Chez le mâle, c'est plus long. On distingue le mâle de la femelle en vol. L'hirondelle de fenêtre, comme son nom l'indique, elle niche souvent au-dessus des fenêtres, sous les toits. Et là, elle a la queue échancrée, mais pas fourchue à ce point-là, et elle a le croupion blanc. Donc ça se voit aussi de loin.
Elle a un beau ventre blanc.
Ouais, voilà.
Et l'hirondelle de rivage, elle est plus brune et...
Alors, elle est marron. Donc, elle a aussi le ventre clair, mais elle est marron. Elle n'est pas bleu sombre comme les deux autres.
Et pour le coup, il faut être malin, c'est celle qui fait des terriers le long des rivages, tout simplement. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle hirondelle de rivage.
Voilà, absolument. Donc, il faut absolument des falaises pour tous ces oiseaux.
Donc c'est bien, grâce à toi, on différencie les trois hirondelles les plus faciles à observer en France. Je continue à feuilleter ton livre et tu as un mot un peu tristoun sur le fameux silure. Tu nous rappelles que c'est un poisson qui a été introduit et qui, d'une certaine manière, est un peu catastrophique.
Oui, enfin, c'est pas triste, c'est la vie. Hein. J'ai voulu mettre une seule photo, ou quasiment, il n'y en a que deux, mais une grande, grande photo pour montrer à quel point ce poisson est gros. Il y en a en France qui font 2,74 m quand même. Ça frise les 3 mètres déjà, et ils peuvent encore grandir. Hein. On le voit à côté d'un plongeur, d'un de nos photographes, pour montrer l'échelle. Et aussi pour montrer que ce poisson, autour duquel tourne tellement de fantasmes, n'est pas dangereux, puisque le plongeur, il est à côté, il pourrait les caresser. Il y a plein de photos de silures, parce que c'est un poisson assez fascinant quand même. C'est un poisson de fond, donc un gros poisson de chat avec des moustaches, qui ne voit pas très bien, qui est un invasif aussi. Il est originaire des pays de l'Est, donc c'est des pêcheurs sportifs qui les ont lâchés un peu n'importe où. Et c'est pas très malin, voilà. Parce que maintenant on se retrouve avec des gros poissons qui sont pas bêtes, hein, les silures. Il y en a par exemple qui attendent dans les passes à poissons sur les barrages, qui avalent, parce que c'est des gros aspirateurs, qui avalent les aloses, les saumons, les truites,
les
qui peuvent menacer ces poissons-là. Et on en a vu aussi qui s'échouaient, comme les orques avec les manchots, pour attraper des pigeons. Je ne sais plus où, sur un pont très particulier maintenant qui est truffé de photographes. Ouais. Et on voit ces silures, cette culture animale d'attraper les pigeons qui viennent boire.
Ouais, un geste célèbre. On va rester dans les oiseaux, on va faire une transition poisson-oiseau. J'aimerais que tu nous donnes cette fois-ci une bonne nouvelle concernant le balbuzard. Le balbu, comme tu dis, dans ce livre, qui a des serres à une courbure exceptionnelle et qui a même des... Alors, tu qualifies ces serres de pinces à sucre géantes avec des doigts recouverts d'écailles pointues anti-glisse.
Oui, bah voilà, t'as
ça, c'est le style Marc Giraud.
Oui, alors le balbu, ça c'est les abréviations d'ornitho. Hein. Le balbuzard pêcheur, il avait complètement disparu de France continentale il y a quelques années. Et maintenant, il revient. C'est un oiseau qu'on voit un peu partout dans le monde. Hein. J'en ai vu un peu partout, même dans des zones urbaines.
Il y a des photos célèbres de balbu en Floride sur le site Cap Canaveral, tu sais.
Bah oui, et puis il y a beaucoup d'oiseaux là-bas. Oui. Donc, il y en avait encore quelques-uns en Corse, mais très peu. Ils sont connus dans la réserve de Scandala ou ailleurs. Ils n'ont jamais disparu. En France, ils sont revenus au bord de la Loire, en forêt, parce qu'ils nichent dans des arbres. Et maintenant, le balbuzard est de retour. Et j'en ai même vu ici, dans ma campagne pas très très riche, au bord de l'Eure. J'ai vu des balbuzards, donc ça commence à revenir. Une certaine partie de la faune qui avait disparu revient. Il y a des raisons d'être inquiet pour certaines espèces, et il y en a d'autres de se réjouir quand même pour d'autres.
Ouais, le balbuzard revient petit à petit. C'est une belle nouvelle, hein. C'est un oiseau... évidemment magnifique, qui pêche, comme son nom l'indique, en piqué, les serres en avant. Enfin, c'est tout un programme, voir un balbuzard pêcher. Marc, on va finir cet épisode avec un animal très connu. Tu l'as brièvement évoqué, le castor. C'est pareil, hein, le castor revient gentiment.
Ah bah oui, il avait presque disparu. Il n'y en avait plus que dans le Rhône. Et grâce à des opérations de réintroduction, il y en a un peu partout maintenant, en France, dans quasiment toutes les régions, là où il y a de l'eau, évidemment. Le castor, il a un grand, grand rôle écologique. Hein. Il ne fait pas forcément de barrages spectaculaires comme le castor d'Amérique, mais il en fait quand même, qui retient l'eau. Et on sait que, par exemple, l'origine des tourbières d'aujourd'hui, c'est souvent d'anciens barrages de castors de la préhistoire qui ont fait des milieux écologiques très, très particuliers. Donc, il a vraiment un rôle. D'abord, il éclaircit le paysage dans les ripisylves, c'est-à-dire dans les forêts autour des fleuves. Il mange les arbres tendres du bord. Il facilite la venue d'autres arbres. Enfin, il a un rôle qui dépasse sa propre existence, quoi.
Un peu comme le blaireau, on n'arrête pas de parler de blaireau parce que récemment, c'était la journée mondiale du blaireau où tu as rencontré quelqu'un de l'équipe, Audrey, que je salue à nouveau. Marc, ainsi s'achève sur nos histoires de castors, notre épisode du jour concernant ton livre « La nature au bord de l'eau » chez Delachaux et Niestlé qui vient de paraître. Je te retrouve très vite pour finir de parler de ce livre. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
À bientôt.